écoutez un podcast de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ce podcast est destiné aux personnes touchées par un cancer du sang. Nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Nous entendrons également des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Veuillez noter que ce podcast ne doit pas être considéré comme un avis médical. Bienvenue au podcast présenté par la Société de leucémie et lymphome du Canada sur la leucémie myéloïde aiguë. Ce podcast fait partie d'une série de podcasts destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang. Je m'appelle Sonia Miudo et je suis la coordonnatrice de programmes communautaires. Je fais partie d'une équipe à travers le Canada. Notre rôle est de connecter les personnes touchées par un cancer du sang à des ressources qui informent, soutiennent, éduquent et responsabilise. Aujourd'hui, je parle avec Sylvie Camiré. Sylvie est en rémission de la LMA. Elle est infirmière à Québec et elle est aussi engagée bénévolement pour le Comité de mission de Québec. Sylvie, merci beaucoup de m'avoir rencontrée aujourd'hui pour parler un peu de votre expérience avec le cancer du sang.
Ça me fait plaisir.
Alors, parlez-nous un peu de vous et de vos expériences avec la LMA, s'il vous plaît.
Bien, en fait, moi, j'ai passé banalement des prises de sang pour un contrôle, puis j'ai été une dizaine de jours là, à attendre des résultats parce qu'on a fait une biopsie de la moelle, en fait, pour confirmer le diagnostic. Donc, j'ai été diagnostiquée, moi, le 10 novembre 2017, d'une leucémie myéloïde aiguë. Donc, le processus de traitement a commencé le 10 novembre avec l'annonce du diagnostic. Et les traitements ont suivi à partir du 11 novembre, donc la maladie était quand même assez agressive, là, donc on devait débuter les traitements assez rapidement. Donc moi, j'ai vécu cette expérience-là, je parle de ça comme une aventure. Donc j'ai débuté mon aventure le 10 novembre, donc et elle s'est terminée le 24 avril, heureusement, avec la greffe. Donc c'est un peu comme ça que j'ai vu ma leucémie. Je l'ai toujours vue comme une aventure, comme une progression dans ma vie. J'ai toujours pris ça du bon côté, j'ai pris ça positivement, j'ai essayé de... C'est sûr qu'on a toujours le choc à chacune des annonces, mais habituellement, dans 24 heures, là, j'étais passée au côté positif, puis je voyais ça autrement. Donc, je trouve ça comme une aventure.
À cette étape, une fois que vous avez été diagnostiquée, c'est quoi exactement que vous auriez aimé savoir à cette étape?
Bien, je dirais que ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir un petit peu plus de soutien parce que l'annonce d'un est difficile. Puis moi, j'étais toute seule parce que je ne m'attendais vraiment pas à cette annonce-là. Donc, d'être bien entourée, ça, c'est important. Puis d'avoir les renseignements qu'on a besoin, les informations qu'on a besoin pour savoir qu'est-ce que c'est la leucémie parce que même si je suis infirmière, c'était quelque chose que j'avais touché dans mes stages il y a 20 ans. Donc, c'était un peu comme de l'inconnu pour moi aussi. Donc, d'avoir des renseignements sur qu'est-ce que c'est la leucémie, vers où on s'en va, c'est quoi les plans de traitement, c'est de ça que j'aurais eu besoin. Puis ma famille en aurait eu besoin aussi parce que je me suis sentie un peu comme le support de ma famille en étant infirmière. Là. Les gens me demandaient, bien, qu'est-ce que c'est? Vers où tu t'en vas? C'est quoi le traitement? C'est quoi tes chances de survie? Donc, tu sais, c'est un peu des choses que moi, je connaissais pas du tout. Là. Fait que je me suis sentie un peu le support de ma famille en même temps. Puis il nous manque beaucoup, beaucoup de renseignements quand on reçoit le diagnostic. De savoir où on s'en va, puis quels vont être les effets secondaires, c'est quoi nos options, hein, parce qu'on ne le sait pas, on suit vraiment au corps médical, puis on ne connaît pas vraiment nos options, on ne connaît pas non plus est-ce qu'il y a eu des recherches de fait, est-ce que c'est vraiment le meilleur traitement qu'on me propose. Fait que c'est un peu tout ça qui m'a manqué dans cette annonce de diagnostic-là, puis surtout du soutien. Me sentir soutenue, puis de pouvoir parler avec quelqu'un qui avait eu un peu la même chose que moi, ça m'aurait aidé. Je pense que ça l'aurait aussi aidé ma famille, d'avoir le support de pères qui ont vécu un peu la même chose.
Oui, c'est intéressant que vous disiez ça, que on pense souvent que les patients ont besoin d'informations, mais la famille, leur entourage aussi, c'est super important. Puis j'imagine que oui, ce serait difficile de répondre aux questions que vous n'avez pas des réponses non plus, hein?
Non, effectivement. Puis, tu sais, de supporter toute la famille, que ce soit la famille proche ou la famille un petit peu plus éloignée. Quand on a l'annonce du diagnostic, moi, j'avais des enfants. Donc, tu sais, d'avoir un soutien psychologique pour les enfants, ça, tu sais, sans que j'aie besoin de le demander ou de m'en soucier, ça aurait été vraiment, vraiment aidant. Puis, du support pour ma famille, mes parents, ma sœur, les amis qui posent énormément de questions, ça aurait été vraiment apprécié.
Une fois que vous avez eu le diagnostic de la LMA, quel a été le processus que vous avez suivi à ce moment-là?
Bien, en fait, moi, on m'a fait l'annonce du diagnostic le 10 novembre, puis ce qu'on m'a dit, c'est que je ne ressortais pas de l'hôpital. Donc, je suis restée à l'hôpital, puis là, c'est un peu là que le processus s'est enclenché, là. Le traitement, l'installation du cathéter, là, le médecin donne beaucoup d'explications, mais c'est pas la bonne journée pour avoir tous ces renseignements-là, malheureusement, parce qu'on est comme sous le choc, sous l'émotion, sous l'effet du diagnostic, en fait, puis on essaie juste de prendre ces informations-là, puis de se dire que, OK, bon, là, j'ai eu le diagnostic, où je m'en vais maintenant? Puis, tu sais, d'avoir tous ces renseignements-là, le premier 24 heures, là, c'est très difficile à assimiler, puis souvent, on n'a pas d'écrit. Tu sais, on ne nous remet pas de renseignements écrits, fait que c'est très difficile de connaître la suite.
Oui, j'imagine que c'est très difficile de s'en rappeler aussi quand on n'a pas quelque chose d'écrit non plus. Ouais.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'a beaucoup manqué. Puis, tu sais, je suis dans le domaine, puis je suis quelqu'un d'assez débrouillard, fait que ça a été assez rapide de trouver mes informations, mais dans le diagnostic de ma maladie, j'ai été chanceuse, je n'avais aucune infection, aucun saignement. Oui, mes globules rouges étaient bas, mais j'étais encore capable de faire mes choses. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive avec une infection active, qui fait de la température, qui a l'annonce du diagnostic, puis qui doit débuter les traitements, ça doit être extrêmement difficile d'aller chercher les renseignements.
Oui, j'imagine, oui. Quels sont les traitements que vous avez reçus et peut-être juste décrire un peu vos expériences avec ces traitements?
Oui, bien en fait, moi j'ai reçu la chimiothérapie, deux traitements d'induction. Donc moi, à la première biopsie de moelle, j'avais 56 % de mes cellules qui étaient cancéreuses. Donc c'est pour ça que ça pressait vraiment de débuter avec la chimiothérapie pour empêcher les cellules de se reproduire puis essayer d'en éliminer le plus possible. Fait qu'on a donné une première chimiothérapie et on a refait une biopsie de contrôle de moelle pour voir si j'étais tombée en rémission. Donc ça, c'est un peu une information qui me manquait aussi. À quoi on s'attendait quand on donne la chimiothérapie? C'est quoi le résultat qu'on s'attend? Hein, on s'attend de tomber en rémission, mais quelle sorte de rémission? Combien de cellules cancéreuses on doit avoir? C'est un peu des renseignements qui me manquaient aussi. Fait que quand on a fait la biopsie de contrôle après la première chimiothérapie, on m'a dit, Sylvie, t'es pas en rémission. Je dis, bien voyons donc, ça se peut pas, je suis pas en rémission. On a donné la chimiothérapie pour tomber en rémission. Fait qu'il me manquait même après un mois beaucoup de renseignements. Puis là, ce qu'on m'a expliqué à ce moment-là, c'est qu'on devait avoir en bas de 5 % de cellules cancéreuses dans notre moelle osseuse. Moi, il m'en restait 7 % Donc, je n'étais pas tombée en rémission. Donc, on est allé vers un deuxième traitement d'induction, ce que je ne m'attendais pas du tout, parce qu'on n'en avait pas parlé au départ, parce que je pense que le corps médical s'attendait aussi que je tombe en rémission, en bas du 5 % de cellules cancéreuses. Fait que là, on a donné une deuxième chimiothérapie d'induction. Donc, je suis restée à peu près 3 mois. Là. Ma première hospitalisation en isolement a duré 3 mois. Moi, je m'attendais au bout d'un mois à sortir, là, tu sais, d'avoir eu ma première chimio, puis de sortir. Fait que je dirais qu'il y a eu un manque à ce niveau-là, là, au niveau des renseignements. La chimiothérapie, bien, c'est sûr que ça détruit les cellules cancéreuses, mais ça détruit aussi les bonnes cellules. Donc, c'est des moments qui sont assez éprouvants au niveau physique et au niveau mental. Donc, ça prend vraiment un bon support, là, au niveau de la famille. Puis vraiment un bon support au niveau psychologique pour nous, les patients qui sont vraiment dans le traitement, parce qu'on vit beaucoup d'effets physiques, donc la perte des cheveux, des infections qui surviennent, de la température, des problèmes de peau. Donc, tu sais, on nous traite beaucoup au niveau physique, pas beaucoup au niveau psychologique. C'est une expérience quand même assez difficile. C'est un re-questionnement, c'est comme un film de notre vie. Hein? On revoit le film de notre vie parce qu'on ne sait pas du tout où on s'en va. C'est comme de l'inconnu. Puis même le corps médical ne le sait pas trop non plus. Donc, c'est un petit peu difficile de se remettre dans le moment présent, là. Fait qu'on est beaucoup à regarder le passé, puis je pense que d'avoir un soutien psychologique aussi durant les traitements, c'est aidant. Puis ensuite, ben moi, j'ai eu un traitement de consolidation parce que là, je devais prendre une décision sur le plan de traitement futur. Donc, qu'est-ce que je décidais? Est-ce que je continuais en chimio de consolidation ou si je me dirigeais vers la graisse? Parce qu'on fait des analyses chromosomiques. Hein? On regarde nos gènes, on regarde nos chromosomes. Est-ce qu'on a des risques favorables, défavorables? Donc, ça, c'était quelque chose aussi que je n'étais pas au courant durant le traitement. Puis, quand on a fait mon analyse, bien, moi, je n'avais pas de risque favorable, mais j'en avais pas de défavorable. Donc, je tombais comme dans un risque intermédiaire. Donc là, j'ai contacté l'hôpital de Québec qui s'occupe plus de la greffe pour avoir un petit peu plus de renseignements parce qu'il manquait d'informations. Puis, j'ai rencontré, en fait, le médecin de la greffe qui, lui, m'a expliqué qu'est-ce que c'était la greffe puis c'était quoi mes plans de traitement. Donc, ça faisait déjà 3 traitements de chimiothérapie que j'avais, puis je ne savais pas encore vers où je m'en allais. Je ne savais pas c'était quoi mon plan de traitement futur. Là. Qu'est-ce qui était mieux pour moi et c'était quoi les risques. Fait qu'en rencontrant le médecin de la greffe, lui, il a vraiment pris le temps de m'expliquer c'était quoi les plans de traitement pour moi, les 3 plans de traitement, puis c'était quoi les risques. Parce que c'est important, avant de prendre une décision, de la prendre de façon éclairée puis de connaître les risques. Puis ce qui s'en vient. Moi, c'était bien important pour moi de comprendre. Donc, c'est quand j'ai rencontré le médecin de la greffe que j'ai compris que j'avais une décision à prendre. Puis ma décision, il fallait qu'elle se prenne rapidement. Parce qu'on faisait un choix si on continuait la chimiothérapie ou si on allait en greffe. Donc, la chimio est bien différente quand on va en greffe. Fait que là, j'avais une décision à prendre que j'ai pris. Donc, j'ai eu, dans le fond, 2 inductions, 1 consolidation pour me rendre jusqu'à ma chimio de greffe. Donc, j'ai eu la chimio d'induction pré-greffe, en fait, qui s'appelle la chimio pré-greffe. Puis, j'ai été greffée ensuite. Donc, c'est sûr que c'est des moments difficiles parce qu'on a beaucoup d'effets secondaires de ces chimios-là, malheureusement. C'est ce qui est difficile au niveau physique puis au niveau psychologique parce que quand on se met à faire de la température puis à perdre quelques journées dans notre vie parce qu'il y a des moments où c'est plus difficile, quand on revient, bien, on se questionne si on poursuit le même traitement. Mais avec du support puis des explications, c'est beaucoup plus facile. Puis du support aussi au niveau médical, au niveau pharmaceutique pour comprendre c'est quoi les médicaments qu'on nous donne, pourquoi on nous les donne, c'est quoi leur but. Ça, c'est bien important. Puis d'être soutenu au niveau psychologique, de rencontrer la travailleuse sociale, de rencontrer le psychologue qui est spécialisé en oncologie, que la famille soit rencontrée, ça a été vraiment gagnant pour moi.
À propos des traitements, avez-vous eu des effets secondaires? Pourriez-vous nous décrire un petit peu?
Bien, en fait, moi, chaque traitement a amené des effets secondaires différents. Donc, le premier traitement d'induction que j'ai reçu, j'ai fait une colique neutropénique. Donc, j'ai vraiment fait énormément de diarrhée, énormément de maux de ventre. J'ai fait de la température à cause de la colique neutropénique. Ça a duré un 4-5 jours, je dirais, là, quand même assez intense au niveau des effets secondaires. On repasse des examens, on donne des antibiotiques, on attend que le temps passe, on attend que la température se calme. Mais c'est 4-5 jours quand même assez intense. Ensuite, il y a eu la perte des cheveux qui a été un petit peu plus difficile. Moi, je suis une femme, puis j'avais des grands cheveux longs, blonds, puis c'était bien important pour moi, mes cheveux. Donc, la perte des cheveux, c'est pas facile pour l'image de soi, pour l'estime de soi. C'est pour ça qu'un suivi avec la travailleuse sociale, la psychologue, c'est important. Ça a été ma première chimio. La deuxième chimiothérapie, en fait, j'ai fait une perte de poids très importante. En 3 jours, j'ai perdu 14 livres. Donc, ça a été assez majeur. Donc, au niveau de l'énergie, de la fatigue, ça a été difficile. Par contre, je n'ai pas fait de température à la deuxième chimiothérapie. Troisième chimiothérapie, celle de consolidation. Là, j'ai fait, dans le fond, une septicémie. J'ai fait de la température, puis j'ai fait une bactérie dans le sang. Donc là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de température, beaucoup de maux de tête, beaucoup de... Moi, j'ai pas eu beaucoup d'effets de nausées, vomissements. J'ai pas eu beaucoup ça. J'ai été très chanceuse de ce côté-là. Pas d'ulcères non plus au niveau de la bouche dans les premiers traitements de chimiothérapie. Donc, de ce côté-là, j'ai été quand même assez chanceuse. Mais la consolidation, c'est ça. J'ai fait presque un 7 jours de température. On a pensé à certains moments donné que je faisais une méningite à cause des maux de tête. J'étais plus capable de m'asseoir. La seule position confortable, c'était couché. Donc, je mangeais couché, je faisais tout couché, je n'étais pas capable. C'était vraiment intense au niveau des maux de tête. Puis au niveau de la chimio pré-greffe, bien, j'ai fait beaucoup de température et là, j'ai fait des ulcères parce que la chimio pré-greffe met vraiment le système immunitaire complètement à plat pour être capable d'accueillir la greffe du donneur. Donc là, j'ai fait vraiment beaucoup d'ulcères au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac. J'ai été hyper alimentée presque 2 semaines. Là. J'ai été 2 semaines sans manger parce que je n'étais pas capable. Là. Mais on m'a hyper alimentée. Donc, au niveau de ma voie veineuse, là, ça a quand même bien été là, au niveau de la fatigue, de l'énergie. C'est un peu ça que j'ai vécu au niveau de mes chimiothérapies. Mais souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est les effets à long terme de la chimiothérapie. On va parler beaucoup de la perte des cheveux, de la sécheresse au niveau de la bouche, des ulcères. Mais tu sais, on oublie souvent de dire, surtout aux femmes, ben ça se peut que vous soyez ménopausées, là. La chimiothérapie travaille beaucoup au niveau hormonal aussi. Fait que c'est un peu des choses qui oublient de nous dire, des douleurs chroniques au niveau osseuse qui demeurent, tout ce qui est au niveau psychologique aussi. Hein, c'est une nouvelle vie qui commence quand on reçoit des traitements de chimio. On a beaucoup de questionnements sur notre vie personnelle, sur notre cheminement qu'on a fait avant d'avoir la maladie, puis sur le cheminement qu'on va avoir à faire après la maladie. Donc ça, c'est aussi des... Moi, j'appelle ça les effets secondaires à long terme de la chimiothérapie que... on ne nous parle pas ou qu'on ne pense pas de nous dire là, que nous, on s'aperçoit après avoir reçu les traitements. Là, de dire aussi que ça se peut qu'il y ait d'autres chimios après la greffe. Donc, de ne pas avoir de surprise, ça, moi, je trouve ça bien important. T'sais, quand quelqu'un veut savoir où il s'en va, là, d'avoir des surprises en cours de route, c'est un peu déroutant. Là. Puis des fois, c'est un peu décourageant. Quand on sait ce qui nous attend, ben, on est capable de faire un check sur notre liste. Bon, j'ai fait la première chimiothérapie, c'est fait. Bon, il faut que j'en fasse une deuxième, je suis au courant. Bon, est fait, je fais un check. Fait que, tu sais, de savoir ce qui s'en vient, c'est important. Parce que dans la LMA, il ne faut pas oublier qu'il y a en prévention maintenant de la chimiothérapie intrathécale. Donc, qui est donnée au niveau lombaire pour aller protéger au niveau du cerveau pour ne pas développer éventuellement un cancer au niveau du cerveau. Fait que c'est important que ces choses-là, on les sache d'avance, que ce ne soit pas une surprise quand on a fini, puis qu'on est greffé, puis qu'on pense qu'il nous reste juste à revenir physiquement, qu'on nous surprenne avec ces choses-là, c'est difficile. Là.
Bien, je vous avais mentionné un peu de soutien que vous avez eu. Pourriez-vous, comme juste discuter un petit peu plus, le soutien que vous avez reçu pendant votre expérience, c'est quoi exactement qui vous a aidé le plus?
Bien, en fait, ce qui m'a, au niveau du soutien, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de, un, ma famille. C'est important pour moi que ma famille soit là, mes enfants, mon conjoint, mes amis. Ça, c'est bien important dans un processus de cheminement, surtout quand c'est une aventure où tu t'en vas dans de l'inconnu. C'est important d'être supporté par les membres qui sont près de toi. Les réseaux sociaux, ça a l'air vraiment banal, mais d'avoir accès aux réseaux sociaux quand on est isolé en chimiothérapie, d'avoir accès à Internet puis de pouvoir parler. T'sais, on dit souvent les réseaux sociaux, ça a des désavantages, mais ça a aussi beaucoup d'avantages pour les gens qui sont malades et isolés dans une chambre d'hôpital pendant 3 mois. De pouvoir voir des gens à travers une caméra, ça a été vraiment gagnant pour moi, de pouvoir voir mes amis, mes enfants, ma famille, parce que en pleine période hivernale, tout le monde est malade, personne ne veut venir te donner de microbes, mais finalement, tu te retrouves isolé. Mais par la voie des réseaux sociaux, ça devient facile de garder un réseau social puis de garder des amis. D'avoir accès à Internet, c'est très, très, très important pour pouvoir décrocher, écouter des films, écouter des séries, avoir accès à des renseignements au niveau, exemple, de la société, de leucémie, de pouvoir voir des vidéos, de comprendre les plans de traitement. Ça, c'est vraiment aussi un bon soutien, de pouvoir parler avec des gens qui vivent la même chose que nous. Donc, moi, j'ai eu une personne qui a vécu une LMA comme moi, avec un peu le même plan de traitement, à qui j'ai pu parler durant mon processus. Ça a été vraiment aidant. Puis d'avoir des médecins qui prennent le temps de nous expliquer, qui prennent le temps de répondre à nos questions qu'on se pose à tous les jours. On a des nouvelles questions parce qu'il se passe quelque chose de nouveau. Ça, c'est important aussi dans le soutien. l'équipe, hein, l'équipe qui est autour de l'équipe médicale, donc les pharmaciens qui viennent nous expliquer les médicaments, les effets secondaires, pourquoi les médicaments nous sont donnés, qu'est-ce que ça va faire à long terme. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Puis tout ce qui est TS, travailleur social, psychologue qui viennent nous rencontrer pour essayer de nous accompagner dans cette aventure-là. Vraiment, vraiment, vraiment important que ces gens soient là autour de nous, là. Qu'on ait, tu sais, je reviens encore, puis qu'on ait les renseignements écrits, qu'on puisse s'y référer quand on a une question. Ça, c'est vraiment important, puis qu'on puisse noter les informations qui nous sont dites aussi, tu sais, qu'on... Moi, je me suis fait un cartable là, pour noter mes résultats de prise de sang, noter les examens qui ont été faits, c'est qui les médecins que j'ai vus, c'est qui cette semaine qui est là en infectiologie qui me suit si je fais de la température. Non, c'est important pour être confortable dans ce processus-là, pour se poser le moins de questions possible.
J'imagine que c'est aussi une question d'avoir un petit peu de contrôle sur une situation qui a l'air assez incontrôlable aussi. Hein?
Voilà, c'est une situation qu'on n'a pas de contrôle, mais vraiment pas, puis qu'on n'a pas choisi. Hein? C'est pas un choix qu'on a fait de s'en aller vers là. Fait que si on est capable d'avoir un minimum de contrôle puis de comprendre ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile. De nous permettre de rester actifs. Ça, c'est important parce que quand on est isolé sur 3 mois, moi, moi d'avoir eu mon vélo stationnaire, là, ça m'a aidé à garder un minimum de forme physique. Puis ça nous aide à passer à travers du temps qui parfois est long. Fait que de nous permettre d'apporter des articles de la maison pour passer le temps, ça, c'est vraiment important, là. Puis de rencontrer une physiothérapeute, puis d'avoir des exercices à faire pour garder un minimum de conditions physiques, là, ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Là.
Selon vous, qu'est-ce que le cancer a changé dans votre vie?
C'est une très bonne question. Ça a changé énormément de choses pour moi. Ça a changé ma vision de la vie. J'étais déjà une fille quand même assez positive, qui voyait de l'avant, qui était... Écoute, je marchais à 100 000 à l'heure dans 50 millions de projets, toujours là pour les autres. La maladie m'a comme arrêtée, m'a permis le temps de me remettre en question, de revoir où je m'en allais dans ma vie, de voir c'était quoi mes priorités. Ça m'a permis de me dire, écoute Sylvie, tu sais, tu profitais déjà de la vie à 100%, mais là, tu vas profiter de chacun des moments. De chaque personne que tu vas rencontrer, de chaque petit moment que tu vas faire, tu vas en profiter, puis tu vas apprendre à prendre du temps pour toi. Peut-être que la vie, c'est ça qu'elle t'a arrêté pour te faire prendre conscience que, oui, tu penses beaucoup aux autres, mais peut-être que c'est un temps de ta vie où il faut que tu t'arrêtes puis que tu prennes du temps pour toi. Puis que tu prennes du temps pour les gens qui t'entourent, puis que chaque moment, tu remercies la vie d'être encore là. Puis de pouvoir en profiter. Fait que moi, ça a été vraiment un tournant dans ma vie, là. Ça a été vraiment une aventure, un tournant, puis je vois vraiment la vie de façon différente. Puis, tu sais, c'est ça, on prend pas assez le temps, là, tu sais. On prend le temps, oui, on va jouer avec les enfants dehors, mais de se dire, hein, je suis vraiment chanceuse de prendre conscience de ces beaux moments-là, puis de dire aux gens qui nous entourent comment on les aime. Tu sais, moi, j'ai été confrontée à, oui, peut-être j'aurais pu y rester, puis y a-tu des gens à qui j'ai pas dit que je les aimais? Tu sais, qui avaient été des personnes importantes dans ma vie, puis qui ont créé, avec qui j'ai créé des beaux moments. Fait que, tu sais, ça, c'est, pour moi, c'est important. Tu sais, je vais dire merci aux gens. Hey, merci d'être venu prendre un café, tu sais. Je suis vraiment contente, ça fait du bien, puis c'est important dans ma vie, puis je t'aime, puis tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé pour moi, là.
Que direz-vous à quelqu'un qui vient de recevoir un diagnostic de cancer du sang?
Écoute, il faut toujours garder espoir. Durant la maladie, j'ai vécu beaucoup de petits moments où on m'a dit « Oh non, Sylvie, tu n'es pas tombée en rémission. Oh non, Sylvie, finalement, on n'a pas de donneur. Oh oui, on en a trouvé un, mais oh, il n'est pas compatible. » Fait que tu sais, on vit beaucoup de bas, mais de toujours garder espoir puis de rester positif puis de regarder en avant puis d'y croire. Moi, c'est vraiment ce que je dis. Prenez ça comme une aventure, Restez positif. Oui, il y a des bas, puis oui, pendant 24 heures, quand on a l'annonce du diagnostic ou quand on nous dit qu'on n'est pas en rémission, oui, on pleure, puis on est déçu, puis on pense qu'on ne s'en sortira pas, mais après 24 heures, là, il faut comme se ressaisir puis se dire non. T'sais, moi, j'y crois, puis je garde espoir, puis je fonce, puis c'est vraiment ça. Il faut rester positif, puis il faut profiter de chaque moment, même quand on est à l'hôpital, si on a un téléphone, si on a une visite qui nous fait plaisir, bien, d'en profiter. Puis de profiter du temps d'arrêt que la maladie nous donne pour faire des choses pour soi. T'sais, aussi banal que d'écouter une série, d'écrire à une amie, de prendre le téléphone, puis d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps à qui on n'a pas parlé, puis de profiter de ces beaux moments positifs-là à travers la maladie.
J'imagine que ce serait important aussi de s'entourer de monde qu'on aime beaucoup.
Oui, de s'entourer, oui, de gens importants, la famille, les amis. Vraiment, ça, c'est vraiment la clé du succès, là, oui.
Mais merci beaucoup, Sylvie, d'avoir pris le temps de nous parler un peu de la leucémie myéloïde aiguë aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Si vous avez des questions sur la leucémie ou si vous avez besoin de soutien pour naviguer votre expérience avec le cancer, je vous encourage de contacter le spécialiste de ressources communautaires près de chez vous. Alors, vous pouvez communiquer avec la SLLC au 1-833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site web slcanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des diffusions web consacrées à apprendre davantage sur votre type de cancer du sang. Aussi, ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de Celgene.